Alerte bio-agresseur, un podcast qui vous aide à trouver les solutions face aux maladies et ravageurs que vous rencontrez sur vos chantiers et à adopter les bonnes pratiques.
Alerte bio-agresseur, le podcast qui fait de vous un véritable expert.
Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast d'Alerte bio-agresseur, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les bio-agresseurs du moment. Nous voici déjà au numéro de mars qui marque l'arrivée tant attendue du printemps. Alors que la nature s'éveille doucement, c'est avec enthousiasme que nous retrouvons notre experte Barbara Dekeyser en charge du SVP bioagresseur de l'UNEP pour une plongée au cœur du monde fascinant des bioagresseurs. Dans cet épisode, nous allons parler des redoutables maladies fongiques aux insectes voraces qui coïncident avec l'arrivée du printemps. Tendez bien l'oreille et apprenez comment garder vos espaces verts en bonne santé. Bonjour Barbara.
Bonjour Jérôme.
Je suis ravi de vous retrouver en ce mois de mars. La nature inspire et m'inspire particulièrement aujourd'hui, à tel point que j'aimerais commencer par une citation, Barbara, si vous me le permettez, celle de Ralph Waldo Emerson, essayiste et philosophe et poète américain, qui a écrit « La terre sourit en fleurs ». Et vous posez cette première question, Barbara, que vous inspire cette citation ?
Eh bien, écoutez, je pense que, comme beaucoup d'humains, moi aussi, quand je vois une fleur, je souris. Donc, nous ferons comme la terre, nous sourirons ensemble.
Pour reprendre le thème de ce podcast, vous avez souhaité mettre en lumière les maladies fongiques liées aux anthracnoses, entre autres. Pouvez-vous nous dire quels sont les signes avant-coureurs que les auditeurs doivent surveiller dans leur jardin par rapport à ces maladies fongiques, justement ?
Alors, le sujet des anthracnoses est quand même nettement moins poétique que votre citation.
Oui.
Néanmoins, c'est une maladie extrêmement fréquente, surtout dans les quatre printemps un peu maussades, un peu pourris, avec de l'humidité et de la fraîcheur. L'anthracnose, c'est un nom générique en quelque sorte pour différents champignons qui peuvent sévir sur le platane, le saule, le noyer, le chêne, le hêtre, le marronnier, l'érable, la vigne, l'olivier et beaucoup de plantes potagères. Ce qu'elles ont en commun, c'est que lorsqu'on a des symptômes foliaires, on va toujours retrouver des taches très sombres, brune, foncée à noire, avec souvent une forme de polygone, c'est-à-dire que ce sont les nervures qui limitent la progression du champignon, et c'est autour d'elles que le champignon se développe et que les symptômes se manifestent, et donc on a une forme souvent un peu étoilée de la tache foliaire. On aura également des dégâts sur rameaux, on pourra avoir des défauts d'ouverture, d'éclosion des bourgeons, et donc on pourra avoir des dessèchements globaux de branches liées à l'anthracnose. Donc je l'ai dit, beaucoup de plantes différentes et par contre des symptômes assez similaires d'une maladie d'anthracnose à l'autre.
Barbara, du coup, quelles sont les stratégies de lutte efficaces à mettre en place pour protéger les végétaux des ravages des anthracnoses ?
Le traitement direct du champignon avec des traitements à la bouillie bordelaise, par exemple, peuvent être utiles. Mais en général, comme on l'a dit, les anthracnoses sont plutôt des maladies de printemps humides et pas très chauds. Ben, on a beaucoup de mal à positionner les traitements. Comme l'anthracnose se conserve sur les chancres, sur rameaux, c'est-à-dire les lésions sombres qu'on observe assez facilement sur les rameaux de saule pleureur. L'idée, c'est de supprimer ces zones chancreuses le plus possible. Sur le saule pleureur, c'est par exemple de tailler tôt en saison la base des brindilles qui pendent de l'arbre. Ça peut être sur olivier la même stratégie de taille des extrémités et de suppression de toutes les zones chancrées des rameaux pour éviter que le parasite n'aille vers les feuilles et ne provoque des symptômes sur les feuilles. Les symptômes, en dehors de l'apparition des taches, ce sera une chute des feuilles abondantes et des dessèchements de rameaux qui peuvent être en général d'impact limité, mais qui sont quand même à surveiller parce que en s'accumulant, on peut avoir un effet réellement d'affaiblissement du végétal.
Très bien, merci Barbara. Et comme quoi on en apprend tous les jours et à tout âge, Barbara, vous avez souhaité mettre en avant également un ravageur, un insecte en l'occurrence, le psylle. Je ne connaissais pas le psylle. Quelles sont les caractéristiques distinctives de ces insectes et comment peuvent-ils endommager les plantes ?
Alors souvent confondu avec des pucerons, par l'aspect de l'adulte ou avec des cochenilles par l'aspect de la larve, le psyll est finalement assez méconnu, alors qu'il est plutôt fréquent. Sa larve, au printemps, produit des petits flocons, puisqu'elle se recouvre de sécrétions cireuses, et donc a l'aspect d'un flocon blanc, on la repère assez mal. L'adulte, quant à lui, a l'aspect d'une toute petite cigale, de quelques millimètres de long, avec des ailes en toit assez réticulées et la capacité à sauter lorsqu'il est dérangé. Les cycles sont nombreux sur la saison, mais c'est surtout au printemps qu'on va avoir des dégâts autour des inflorescences, des jeunes branches à la base des feuilles. Sur différentes plantes comme le buis, l'olivier, l'albizia, le laurier sauce, le filaria, le poirier. On va avoir, évidemment, puisque comme les cochenilles et les pucerons, c'est un insecte piqueur, des sécrétions importantes de miella et donc une gêne liée à ce miella. Et puis, on va retrouver des déformations de feuilles, notamment sur buis ou sur laurier sauce, où on va avoir la bordure de la feuille qui va se replier un petit peu sur elle-même. Et dans le cas du buis, on va avoir des feuilles en cuillère, c'est-à-dire complètement arrondies, et des jeunes pousses, du coup, qui ont une forme un petit peu d'ananas.
D'accord. Et du coup, quelles sont alors les alternatives respectueuses de l'environnement pour contrôler les infestations de psyll?
L'idéal, c'est évidemment de trouver des auxiliaires qui vont le manger, qui vont dévorer les adultes et leurs larves. Comme la larve, avec cet important miella et ses sécrétions de cire, n'est pas très appétante, on ira vers peut-être des coccinelles spécialistes comme Cryptolaemus montrousieri. On pourra aller vers des prédateurs plus généralistes comme la chrysope, les punaises notamment. Anthocoris est plutôt active contre les psylles. Orius, qui est un plus petit prédateur, fait aussi un bon nettoyage sur les végétaux. Évidemment, on peut garder en tête que le savon noir permettra de limiter l'impact du miella et de renettoyer rapidement les plantes pour leur redonner à nouveau un aspect, une esthétique satisfaisante.
Donc là, on est plus sur l'idée de contrôler ces infestations, mais existe-t-il d'autres moyens à mettre en œuvre pour les décourager ?
Il y a des solutions répulsives qui marchent avec les purins d'un végétaux notamment. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Même si leur usage en lieu ouvert au public peut être surveillé, en tout cas à réduire.
Très bien. Et vous avez souhaité, Barbara, parler des surfaces engazonnées importantes en ce mois de mars et parler plus précisément des noctuelles des gazons, qui sont une autre menace redoutable. Alors, quels sont les signes indiquant une infestation de noctuelles et comment peuvent-elles être combattues ?
Alors, les noctuelles, c'est bien un papillon, l'adulte est un papillon gris, complètement nocturne. Il n'est pas facile à repérer, il est rarement identifié. En revanche, la larve, elle aussi, est grise. Elle est un petit peu plus connue parce que lorsqu'on fait des travaux dans les substrats, on peut retrouver cette larve enroulée. Ce sont des noctuelles également qui peuvent manger le collet des plants dans les potagers. Et donc, on a là réellement un aspect de chenille, c'est-à-dire qu'on aura une tête noire et on verra bien le devant de l'arrière de l'animal. Ces noctuelles ont une particularité dans la noctuelle des gazons. Elle vit dans la terre, en général verticalement dans la terre ou éventuellement dans le feutre des gazons, et donc elle va sortir la nuit manger autour de son trou. Ce qui fait que quand on a l'apparition des taches, on va se rendre compte qu'on a des brins desséchés et coupés en petits bouts au sol, au centre de la tache, et très souvent on va retrouver un trou assez clairement défini, comme si on avait essayé d'enfoncer un crayon de bois dans le sol. C'est dans ce trou que vit la larve, c'est de ce trou que chaque nuit elle sort manger. Donc la noctuelle, c'est plutôt un problème des gazons secs. L'irrigation peut être une façon de la déranger, de la gêner et de limiter ses effets. On a un certain nombre d'auxiliaires qui vont là aussi être utiles contre la noctuelle. Le hérisson va manger les larves, la chauve-souris dévorera les adultes puisqu'ils se retrouvent effectivement à voler en même temps les nuits d'été.
Très bien. Existe-t-il des nématodes qui peuvent agir sur les noctuelles des gazons ?
Tout à fait, comme beaucoup d'insectes du sol, on a une très bonne efficacité des traitements aux nématodes. C'est une excellente solution lorsqu'on a une attaque qui est relativement importante. Le nématode à retenir dans le cas précis des noctuelles du gazon, c'est Sternerema carpocapsae, qui est le plus efficace contre ce ravageur.
Barbara, vous en parliez là juste avant, vous parliez de chauve-souris. Ça fait partie peut-être des actions positives, si je puis dire, à mener face à ces bioagresseurs. Pourquoi sont-ils finalement si importants pour notre écosystème et comment pouvons-nous les intégrer harmonieusement dans nos espaces extérieurs ?
Alors effectivement, il y a une actualité, c'est que les chauves-souris, il est bien de leur déposer des abris. Alors ce n'est pas proprement parler des nichoirs, mais ce sont bien des abris pour elles, pour en journée pouvoir se reposer, avoir un endroit où elles seront à l'abri des prédateurs et où elles pourront dormir en sécurité. Donc, ce sont souvent des systèmes en bois assez étroits pour leur permettre de se glisser sans être dérangés par d'autres animaux. La chauve-souris, évidemment, elle est très utile contre toutes les populations de papillons nocturnes, notamment les processionnaires, notamment la noctuelle des gazons. Elle est également extrêmement efficace dans la lutte contre les moustiques. Donc, c'est le moment de poser les abris. Il faut les exposer relativement au chaud, c'est-à-dire que le mieux, c'est des situations sur des façades sud-sud-est pour qu'il y ait un niveau de température relativement élevé pour que la chauve-souris passe la journée tranquillement.
Nous invitons tous les professionnels à installer des abris à chauve-souris chez leurs clients. Et nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Barbara, un grand merci pour votre expertise. Grâce à vous et vos précieux conseils, nos auditeurs sont désormais mieux équipés pour faire face aux bioagresseurs. Nous nous retrouverons en compagnie de Barbara début avril pour un nouvel épisode d'Alerte Bioagresseur. D'ici là, prenez soin de vous et de vos espaces verts.
Merci Jérôme, je vous dis à bientôt et je serai très heureuse de vous retrouver.
Merci.
Ce podcast vous a été proposé par le SVP Bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal, plateforme.garden.
Plateforme.garden.
Vous rencontrez un problème de bioagresseur sur vos chantiers ?
Interrogez directement l'expert UNEP sur l'application plateforme.garden.
Ce service est réservé aux adhérents UNEP.